Il existe sur la planète plus de 500 espèces de primates, mais parmi tous ces animaux, eh bien, les chimpanzés sont nos plus proches cousins. La primatologue Sabrina Krief travaille depuis de nombreuses années dans la forêt africaine pour tenter de mieux comprendre ces grands singes qui nous semblent si familiers, mais qui nous troublent également par le miroir qu'ils nous renvoient. Les chimpanzés sont devenus les partenaires de travail de Sabrina Krief dans le parc national de Kibale en Ouganda. Elle a appris à les identifier, à comprendre leur personnalité et leur histoire, et elle publie chez Actes Sud Chimpanzés, mes frères de la forêt. Elle est l'invité de la Terre au Carré dans un instant et vous pouvez lui poser toutes vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 franceinter.fr et les réseaux sociaux. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On passe au vert Radio France dans un instant.
Oui, avec les fumeurs de la maison de la radio.
Vous allez vous faire plein d'amis. Bonjour Caroline Tourbe.
Bonjour Mathieu.
Dans la deuxième demi-heure, votre chronique détox.
Oui, on se demandera si l'homme peut prédire les séismes qu'il a lui-même provoqués.
Vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Pierre-Olivier, un auditeur de Guyane qui a créé un conservatoire avec des palmiers. Et puis enfin, notre invitée découverte est la volcanologue Anne Lefriant qui va nous parler d'un volcan sous-marin qui est apparu très récemment et qui secoue l'archipel de Mayotte. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï avec à la technique Louis Audebert et Charles Lecard.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour Sabrina Krief.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être avec nous. Vous êtes donc primatologue et vétérinaire, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et vous avez fondé en 2006 cette association Project pour la conservation des grands singes et vous publiez donc chez Actes Sud Chimpanzés, mes frères de la forêt. C'est un récit de votre travail en forme de carnet de terrain, on pourrait dire les choses comme ça, avec donc ce travail que vous menez maintenant depuis assez longtemps avec vos cousins primates, nos cousins primates de la forêt ougandaise. Vous dites justement que le chimpanzé sont vos partenaires de travail. De quelle façon vous collaborez avec eux alors exactement?
En fait, ce travail de recherche, il nécessite vraiment l'assentiment et l'acceptation des chimpanzés. Donc, sans leur accord, on ne peut rien faire. Il y a un travail d'habituation qui se fait, donc sans les nourrir, sans contrainte. Et il faut qu'ils acceptent notre présence. Et c'est dans ce sens-là, en fait, qu'on est partenaire.
Ouais. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur les singes? Ça fait 25 ans, c'est ça, maintenant, avec votre mari Jean-Michel?
20 et 25 ans, ouais.
Alors, lui est photographe. Vous êtes donc scientifique et vous partez sur le terrain depuis un certain temps. L'Ouganda, ça a commencé quand exactement pour vous? C'est là que vous avez commencé à repérer les chimpanzés?
Alors, ça a commencé d'abord au Congo Brazzaville, où j'ai travaillé sur des chimpanzés orphelins victimes du braconnage. Puis, en 99, en Ouganda, déjà dans le parc national de Kibale, mais sur une première communauté à Kanyawara, donc, qui était étudiée par l'équipe d'Harvard, avant de fonder notre propre projet, donc dans la zone de Sébitoli, où maintenant on travaille depuis 10 ans. Et le livre décrit surtout cette période, qui est une période de travail un peu pénible et long pour réussir à approcher des chimpanzés qui sont complètement sauvages et qui vont petit à petit en fait nous livrer leurs secrets et qui continuent toujours à nous les livrer.
Oui, parce que c'est 10 ans justement pour commencer à se faire accepter et être quasiment invisible ou neutre en tout le cas par rapport aux chimpanzés.
Oui, c'est les premiers temps. C'est simplement des traces qui nous indiquent leur présence. C'est des crottes, des restes alimentaires, des fruits au pied des arbres et des vocalisations qui emplissent la forêt et qui déjà font monter l'excitation et l'envie de les rencontrer. Mais il va falloir plusieurs années avant de vraiment pouvoir les identifier et de travailler vraiment avec eux, avec leur coopération.
Ouais. Donc l'idée, c'est de susciter l'indifférence en fait chez ces grands singes.
Le succès en fait de notre travail se mesure au moins de dérangements qu'on fait, donc vraiment à l'indifférence effectivement. Donc il faut être assez humble pour accepter en fait de susciter ni curiosité, ni crainte, ni même intérêt.
Ouais. Et donc il y a le moins de contact physique possible avec ces grands singes, voire jamais.
L'objectif c'est vraiment jamais de contact physique. Les seuls finalement qu'on a eu, ce sont dans les cas graves, à savoir quand l'homme est responsable d'un accident vis-à-vis des chimpanzés et qu'on essaye de réparer. Donc les seuls cas, c'est quand un chimpanzé est piégé et où on essaye de les endormir pour enlever ses pièges, ou bien comme par exemple le cas de la femelle qui a été heurtée par une voiture, où là aussi on a dû l'anesthésier. Et donc ce sont les seules circonstances dans lesquelles on a un vrai contact physique avec les chimpanzés. Sinon, on garde 8 à 10 mètres de distance pour ne pas justement les perturber, mais aussi pour ne pas leur transmettre de maladie.
Est-ce que c'est un animal qui peut être agressif, voire dangereux pour l'homme? Parce qu'il a une force considérable, le chimpanzé, quand même. Hein.
En fait, la raison pour laquelle on a décidé de ne plus utiliser dans ces protocoles d'alimentation, c'est parce que Jane Goodall, au départ, utilisait les bananes pour essayer d'approcher les chimpanzés.
Ouais.
Et non seulement ça a changé leur comportement, puisqu'ils passaient leur temps à attendre cette banane qui était distribuée par une boîte, mais ils faisaient bien la relation avec l'humain. Et puis, ça les a rendus agressifs parce qu'ils attendaient quelque chose de l'humain. Alors que de nous, qui n'avons absolument rien à leur apporter, on n'a jamais de gestes agressifs.
Est-ce une petite pichenette à Jane Goodall, quand même, ce que vous nous dites, Sabrina, mine de rien, comme ça, en passant?
Non, pas du tout. Elle était pionnière, elle a fait un travail remarquable et il faut bien pouvoir essuyer les plâtres pour ensuite, pour nous, rendre le travail
différent. En tout cas, les méthodes ont changé aujourd'hui sur la façon dont on approche les chimpanzés. D'ailleurs, vous dites qu'ils ne mangent pas de bananes, les chimpanzés. Hein.
Oui, c'est assez incroyable. Donc, au moment où cet accident s'est produit sur la route et où cette chimpanzée commençait à dépérir et elle n'avait absolument aucune capacité de se déplacer parce qu'elle avait des fractures, on a pris la décision de lui apporter à manger, ce qui n'arrive jamais. Mmh. Et donc, après avoir apporté des fruits de la forêt, comme elle continuait à être un peu faible, on a décidé d'essayer les bananes, et en fait, elle n'en a pas voulu. Donc, on est resté sur les figues de la forêt.
Alors, l'histoire se termine mal, d'ailleurs, pour cette femelle, puisque vous avez décidé de l'anesthésier, finalement.
De l'anesthésier et de l'euthanasier. Ouais. De l'anesthésier pour pouvoir évaluer l'état... De ses fractures, et finalement elle a été transportée à Entebbe, et dans cette clinique il a été décidé de l'euthanasier parce qu'il était impossible.
Alors c'est vrai que dans cet ouvrage, dans ce carnet de bord, il y a beaucoup justement d'observations sur ces chimpanzés. Vous dites finalement leur personnalité, on la comprend aussi dans leur corps, des corps qui sont aussi, qui parlent beaucoup, avec ces mutilations qui sont extrêmement nombreuses, parce qu'il ne faut pas oublier évidemment que ces grands singes font l'objet d'un braconnage intensif dans la forêt, et ils en portent les traces permanentes finalement. Hein.
Oui, les corps des chimpanzés portent les stigmates non seulement de leur vie sociale, puisqu'il y a quand même des morsures, des morceaux d'oreilles en moins, mais aussi donc des mutilations qui sont produites par les pièges, de façon pas dirigée vers les chimpanzés, puisque dans la zone où on est, c'est un des seuls endroits en Afrique en fait où les chimpanzés ne sont pas consommés pour leur viande. Mmh. Donc les populations locales posent des pièges pour attraper du petit gibier, des antilopes, des cochons, parfois des éléphants. Et les chimpanzés sont des victimes indirectes, mais malgré tout gardent ces câbles pendant des mois, voire des années. Par exemple, le mâle alpha, Elliot, a gardé ce câble de vélo en fait, à la main pendant plus d'un an. Oui. Et donc, ils ont parfois des pieds, des mains en moins, parfois même deux pieds en moins. Mmh. Et parfois, certains survivent, mais évidemment, certains meurent à cause de ce braconnage.
Alors, vous décrivez ce que vous essayez de faire précisément dans ces cas-là, c'est-à-dire effectivement anesthésier l'animal. Sauf que le problème, c'est qu'un chimpanzé, même blessé, c'est un animal qui est très difficile à attraper. Hein.
Oui, en fait, dans le livre, on raconte un peu les dessous de ce qu'on publie pas. Hein. C'est que effectivement, il y a quelques rares cas où on arrive à faire une anesthésie et parfois ceux-là sont publiés. Mais dans beaucoup de cas, c'est extrêmement compliqué puisque la première réaction d'un chimpanzé fléché, c'est d'aller se réfugier en hauteur dans les arbres. Et s'il s'endort à 30 ou 40 mètres du sol, quand il tombe, c'est 60 kilos qui tombent au sol. Et il faut être en dessous avec une bâche à plusieurs pour essayer de récupérer donc ce poids mort qui tombe. Et il y a beaucoup d'accidents, donc il faut vraiment peser le pour et le contre avant de se décider à endormir un chimpanzé pour lui enlever le câble. Parce que finalement, ils réussissent malgré tout à survivre le plus souvent à ces mutilations. Mmh. C'est ça qui est incroyable et qui nous permet aussi de faire des observations, entre autres sur l'automédication, puisqu'on les voit utiliser des feuilles, par exemple, pour nettoyer leurs plaies ou pour apaiser des douleurs.
Mmh. Vous parlez justement de certaines maladies aussi. Alors, est-ce que les chimpanzés attrapent le paludisme en forêt ougandaise?
Oui, c'est ce qu'on a réussi à montrer grâce à notre travail, qui a commencé en fait par la mise en évidence qu'ils utilisaient des plantes qui ont des propriétés antipaludiques. Et évidemment, ça a suscité la question, est-ce qu'ils ont le palu? Est-ce que pour ça qu'ils consomment les plantes? Donc on a pu isoler et mettre en évidence, identifier deux nouvelles espèces qui sont donc responsables de symptômes relativement similaires à celles du paludisme chez le chimpanzé, mais beaucoup plus légers a priori, puisque les chimpanzés qu'on suit ne meurt pas du paludisme. Mais quand on a eu quelques gouttes de sang de ces chimpanzés, on a trouvé plusieurs espèces de plasmodium, dont ces nouvelles espèces, à des doses, des concentrations très très faibles. Donc laissant supposer qu'ils avaient des techniques, des stratégies, des méthodes pour réduire les effets de ces parasites.
Donc ils arrivent à se soigner finalement?
Alors, en tout cas, ils consomment des plantes qui ont des effets pour réduire cette charge parasitaire, ce qui est un soin en quelque sorte. On ne sait pas si c'est de la prévention de la prophylaxie ou vraiment du soin. On ne dit pas qu'ils sont conscients de se soigner, mais en tout cas, l'effet qui est produit, c'est une amélioration de l'état de santé.
Mais on pourrait s'en servir pour l'homme ou pas alors,
C'est l'objectif, en fait, de nos travaux, c'est d'essayer de suivre le comportement des chimpanzés pour tirer de ces observations des molécules, ou en tout cas des modèles de molécules qui peuvent ensuite servir aux chimistes pour copier ces molécules et être utiles aux humains.
Cette forêt secondaire là, dans laquelle vivent ces chimpanzés en Ouganda, elle ressemble à quoi finalement ?
Alors c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on est dans une zone qui a été fortement anthropisée, donc détruite par l'homme dans les années 70. 50% des arbres ont été abîmés à cause de l'exploitation forestière. Les arbres qui ont repoussé en fait conviennent très bien aux chimpanzés, puisqu'on est dans un endroit où la densité de chimpanzés est parmi les plus fortes au monde. Donc une forêt secondaire, c'est une forêt avec un sous-bois très dense, où il est très difficile de se déplacer quand on est un humain bipède, et où les chimpanzés se faufilent, se cachent, peuvent échapper à nos regards. C'est aussi une forêt d'altitude avec des pentes assez fortes, au fond desquelles il y a des marécages, donc des endroits où il est vraiment difficile de se déplacer, et où même avec des bottes, les éléments nous rappellent qu'on n'est pas tout à fait adapté pour ce type d'habitat.
On en parlera tout à l'heure, mais vous avez observé beaucoup de comportements avec l'utilisation d'outils chez les chimpanzés, qui sont vraiment probablement les grands primates qui en utilisent le plus. Est-ce que vous avez déjà observé des chimpanzés en train de fumer, Sabrina Krief ?
Ah non.
Nous, on a des grands primates ici à Radio France qui le font, et c'est l'objet de la chronique tout de suite de Camille Cronier.
France Inter. La Terre au carré.
Qui donc ne va pas se faire que des amis à la maison de la radio, puisque vous nous parlez des fumeurs.
Oui, puisque ce mois de... Je repense à votre transition, elle était magnifique, Mathieu.
Merci beaucoup.
C'est mois de novembre, donc c'est le mois sans tabac. Alors, je me suis effectivement intéressée à la cigarette. Depuis la rentrée, Mathieu, certaines de mes chroniques ont fait un petit peu grincer des dents la direction et ricaner, disons, le peuple de Radio France. Mais là, ça pourrait être le contraire. Émission Environnement oblige, j'ai d'abord essayé de traquer ceux qui jettent encore leurs mégots par terre dans les cours civils. Il y en a des dizaines, il n'y a qu'à baisser les yeux. Là, je suis en embuscade. Deux fumeuses droit devant moi. Je suis peut-être mauvaise langue, mais je sens que ça va finir par terre, cette histoire. Ah ben voilà, ça finit par terre.
Aïe, 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 le geste dont beaucoup de fumeurs ne se rendent même plus compte. N'écoutant que mon courage, Mathieu, je suis allée porter la plume dans la plaie, enfin le micro dans le mégot.
Bonjour, je travaille pour France Inter. Oui. Je suis journaliste pour une émission qui s'appelle La Terre au carré sur l'environnement. Je vous ai vu mettre votre mégot par terre, si je ne me suis pas trompée. Je voulais savoir pourquoi.
Bon, écoutez, j'ai pas envie de vous répondre.
Mais il y a des cendriers à côté. Je voudrais comprendre pourquoi vous le mettez par terre plutôt que dans un cendrier. Non ?
Un peu moins.
Je vous trouve un peu gonflé avec le bon regard, le regard qui tue. Je me suis donc effectivement fait des amis. Et encore, je n'ai pas réussi à croiser ceux qui ne sortent même pas du bâtiment pour s'en griller une. Il y en a, à en croire ce spectacle sous les yeux de notre voisin de bureau à France Inter, Ali Rebeyi.
Alors je précise tout de suite, je suis non-fumeur. Je n'ai jamais été fumeur de ma vie. Je viens juste prendre un bol d'air à une fenêtre de Radio France. Et effectivement, là, je suis... devant un rebord constellé de mégots de cigarettes. Je sais pas, il y en a une bonne vingtaine. Ouais. Oh non, un peu plus là, une trentaine.
Et ça balance un peu plus loin dans le couloir, Marie-Claude Pinson et hors d'elle.
Je suis à Radio France depuis tellement d'années que tu ne peux même pas imaginer. Depuis qu'il a été interdit de fumer, il y a des dizaines de gens qui ont continué à fumer, en cachette dans les bureaux. Mais on a même eu des directeurs qui fumaient en cachette dans leur bureau. Donc, de toute façon, les gens qui fument, ils sont incivils.
Voilà, alors ça c'était une attaque de peluche envoyée de l'autre, par l'autre bout du bureau, fumeur, pour riposter.
Oui, donc vous êtes en train de nous créer une bonne ambiance au boulot, Camille, quand même.
Oui, alors il y a quand même de bons élèves, ceux qui jettent dans les cendriers répartis un peu partout à l'extérieur, la majorité heureusement, et ceux trop fiers de leur accessoire.
Moi j'ai un cendrier de poche avec moi. Il est là, il est dans ma poche, et je jette plus mes mégots par terre depuis longtemps.
J'ai un cendrier portable.
Je jette dans mes petits cendriers, j'ai un petit cendrier de poche, donc je fais attention à ça.
Alors c'est bien, ça ne finit pas par terre comme 40 milliards de mégots chaque année en France. Je le rappelle, plus de la moitié des cigarettes fumées. Des mégots très toxiques pour la nature. Écoutez Antoine Di Tommaso, fondateur de Cyclope, qui récupère les mégots dans les entreprises, dont Radio France.
Dans le filtre, qui est toute la partie cellulose, acétate de cellulose du mégot de cigarette, vous avez jusqu'à plusieurs milliers de molécules chimiques, dont des métaux lourds, de la nicotine. Donc ça a un impact assez important sur l'environnement lorsque c'est mélangé avec de l'eau ou jeté dans la nature.
Un mégot met 10 à 12 ans pour disparaître et pourrait polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Et même à la poubelle, il reste un déchet toxique.
Ce qui est dommage, c'est que quand il finit dans une poubelle ou un cendrier classique et qu'il part en incinérateur, ça va brûler dans l'incinérateur. Sauf que certains déchets spécifiques, comme le mégot de cigarette, ne sont pas faits pour être détruits à 100%. Et là, ça part dans les cendres des incinérateurs et derrière, ça part en stockage, en enfouissement. Et là, quand c'est stocké, on en a pour des années et des années.
Voilà, donc même jetés et brûlés, vos mégots n'ont pas fini de polluer les sols. Du coup, de plus en plus d'entreprises qui collectent et transforment les mégots apparaissent. Cyclope en fait du combustible, par exemple. À la maison de la radio, il y a 7 cyclopeurs, 1000 euros par an chacun, que certains fumeurs ont repéré, mais ne sauraient pas tous bien utiliser.
Là, on écrase là et on met dans le trou.
Dans le trou.
Évidemment, puisque c'est recyclant, le cyclope.
Et là, ils les ont laissés dans des espèces de
voilà,
sur le dessus.
Voilà, donc ils comprennent pas les gens. Puis d'abord, je pense qu'ils s'en foutent, parce qu'on n'est pas éduqués.
Voilà, alors il y en a quand même qui sont éduqués, puisque depuis décembre 2017, 254 800 mégots ont été récupérés à Radio France. Ça fait presque 6 kilos.
Mais ils les ont comptés ?
Mais bien sûr qu'ils les comptent, ils les pèsent, 6 kilos au total. Et si on les aligne même, ils calculent l'alignement, ça ferait 6 km 300 le nombre de mégots récoltés depuis que c'est installé à la maison de la radio. Prochaine relève, jeudi matin prochain. Donc amis fumeurs, un petit effort, allez. Et puis même vous à la direction, ne ricanez pas trop quand même.
Bon, au Muséum National d'Histoire Naturelle, ça se passe mieux au niveau des mégots, Sabrina Krief ?
Oui, je n'ai pas traqué les mégots. Par contre, on a traqué les bouteilles plastiques le long de la route qui traverse le parc. Et on
donc
en a compté.
À Kibale, en Ouganda,
Et on en a compté 3000, soit 164 kilos sur 4 km de route au sein d'un parc national.
Ouais.
Donc ça fait peur aussi.
On parle avec vous des chimpanzés, vos frères de la forêt, et bien sûr les auditeurs ont des questions à vous poser à ce sujet au 01 45 24 7000. No More Pennies, c'était Starcrawler.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Laurent, oh my God.
Oh, j'arrive.
Oh, la jolie fille. Alors, tu vas tout seul, Lolo?
Ben non, comme il n'y a que des duos, je suis venu avec ma copine.
C'est à peu près la même chose que moi, je dirais.
C'est Tibi. Et d'habitude, c'est pas bien d'emmener des animaux sur un plateau, mais elle, c'est une star, elle fait des
pubs. Mais...
Voilà, Sabrina Krief, c'était le 7 octobre 2017 sur le plateau de l'émission Salut les Terriens sur C8. Laurent Baffy donc arrivait avec une femelle chimpanzée déguisée hein, puisqu'elle était visiblement vêtue d'une robe rose. Cette scène vous a beaucoup choqué et révolté d'ailleurs.
Bah oui, je trouve ça complètement incroyable que encore aujourd'hui on amène des chimpanzés habillés sur des plateaux de télé et donc ça s'est pas bien fini hein. En plus la chimpanzée a été agressive envers les invités sur le plateau donc ça aurait pu très mal tourner pour elle aurait pu
et
être
pour Robert Charlebois qui était présent sur le plateau
Charlebois effectivement ouais. Et puis ça envoie un signal complètement faussé. On essaye de se battre pour que les chimpanzés et les autres espèces animales sauvages soient protégées dans leur habitat et on laisse à penser qu'il est possible de les avoir comme animaux de compagnie ou comme acteurs sur des plateaux de télé. Donc c'est vraiment indispensable d'interdire absolument ce type de présentation qui ridiculise en plus des animaux et qui joue sur cette proximité avec l'homme pour en faire des objets. Donc,
D'ailleurs, c'est toujours considéré comme un objet, le chimpanzé aujourd'hui dans
le droit. Oui, c'est incroyable. Ouais. Hein, y a pas de statut pour les animaux sauvages dans le droit français.
Ce sont des biens. Hein.
Exactement. Donc on essaye aussi de militer et de se battre pour qu'une personnalité non humaine soit reconnue. C'est le cas dans quelques pays. Par exemple, il y a le cas d'une femelle chimpanzée et d'une femelle orang-outan aussi qui ont été reconnues comme ayant des personnalités. Donc une femelle d'un zoo argentin qui est arrivée aujourd'hui, je crois, et a été placée en Floride de façon à ce qu'elle puisse retrouver des congénères et qu'elle puisse avoir un minimum de vie libre et avec un bien-être social aussi.
Allez, on va partir dans l'Oise où nous attend Denis au 01 45 24 7000 pour parler avec vous de chimpanzés. Bonjour Denis.
Oui, bonjour. Question courte. Au préalable, je souscris complètement à la réflexion de votre invité sur la manipulation des animaux pour distraire les hommes. Voilà, donc ma question, suite à la longue observation de votre invité, ma question est la suivante. Est-ce que l'organisation sociale des chimpanzés les amène à vivre dans une société harmonieuse, contrairement à celle des hommes, qui est maillée de longs conflits durant toute leur carrière, si je puis dire?
Alors, Sabrina.
Alors, les chimpanzés vivent en communauté multimâle, multifemelle, avec des sous-groupes qui se créent au cours de la journée et qui varient. Et ce qui est très caractéristique chez les chimpanzés, c'est que ces sous-groupes ne sont pas fixes et ils varient aussi en fonction des humeurs de chacun. Et ce qui est très caractéristique, c'est que des chimpanzés ne se quittent jamais fâchés. Il y a toujours réconciliation. Donc, même s'il y a un conflit, une agression, ça se termine toujours en relation relativement pacifique. Ce qui est aussi très intéressant dans la société des chimpanzés, c'est qu'il y a une hiérarchie, mais qu'elle n'est pas linéaire et qu'un individu ne peut atteindre le pouvoir.
Donc le mâle alpha.
Voilà, que s'il a le soutien de partenaires qui lui permettent de se positionner au sein de la société.
Mais il y a des couples chez les chimpanzés ?
Alors, il n'y a pas de couple à proprement parler, dans le sens où les femelles se reproduisent avec plusieurs mâles et les mâles avec plusieurs femelles, mais il peut y avoir ce qu'on appelle des lunes de miel, donc des individus qui partent en couple, qui s'extraient du groupe et qui, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, restent en binôme comme ça et qui traduisent en fait des attachements particuliers entre certains individus.
Et contrairement à Yann Moix, chez les chimpanzés, les mâles préfèrent les vieilles. C'est vrai.
Exactement.
Comme beaucoup d'autres femmes aussi quand même. Hein.
En fait, on suppose que c'est dû au fait que les femelles plus âgées ont déjà montré leur qualité de bonne mère et peut-être de bonne maîtresse. Et que donc les chimpanzés apprécient tout particulièrement ces femelles qui ont de l'expérience.
Qu'est-ce qu'il arrive aux chimpanzés quand ils meurent? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial ou est-ce qu'ils restent dans la nature et puis les autres continuent leur vie?
Alors, ce qui est très clair, c'est lors de la mort des jeunes enfants, c'est l'attachement de la mère au petit qui est vraiment signifié par le fait qu'elle porte, qu'elle garde la dépouille du bébé pendant plusieurs jours aussi.
Ça peut être long, hein, vous dites 40, 48 jours, il y a eu une observation de fait.
Exactement, donc jusqu'à ce que le corps soit momifié et qu'il se disloque, etc. Pendant les premiers jours, on va la voir encore épouiller le corps du petit, etc. Après, quand les chimpanzés sont mourants, ce qu'on observe, c'est des congénères qui viennent pousser le corps, vérifier s'il y a des réactions. Autour de la mort, ce qui a été observé, mais nous on ne l'a pas observé à Sébitoli, dans certains cas, il y a des branches qui sont posées sur le corps, il y a des sortes de veillées, c'est-à-dire que les individus se mettent autour, qu'il y a certains qui vont se mettre à épouiller le corps de l'individu mort alors qu'il ne les épouillait jamais de son vivant. Donc des pratiques qui semblent montrer qu'il y a reconnaissance d'un état particulier, donc du fait que l'individu soit plus réactif.
Donc ça, ce sont des observations sur l'interprétation de la mort des chimpanzés, mais c'est compliqué à faire, parce qu'en même en primatologie, on en a très très peu finalement de...
Oui, en fait, ce qui est très compliqué avec les chimpanzés, c'est que comme ils ne vivent pas en groupe fixe, quand un individu est malade et encore plus mourant, il va avoir tendance à s'isoler, et comme en plus l'habitat est un peu compliqué, on n'arrive pas forcément, même si nous, par exemple, notre objectif, c'est vraiment de mieux comprendre la santé des chimpanzés, donc dès qu'un individu est malade, on essaye de le suivre. C'est très rare les cas où on voit des chimpanzés morts.
Question de Jean-Paul par mail. Vous le disiez, les chimpanzés se soignent eux-mêmes. Comment font-ils leur apprentissage?
Alors en fait, on pense qu'il y a au moins deux sortes d'apprentissage. Un apprentissage individuel par essai-erreur. Donc en fait, ce qui soigne souvent a un goût déplaisant, amer ou astringent, avec des tanins, des alcaloïdes. Donc en théorie, ce goût entraîne un rejet de la plante. Mais là, en fait, il faut dépasser ce dégoût, cette néophobie aussi, et intégrer ce goût comme étant un goût qui est associé à un mieux-être. Donc il y a d'abord un apprentissage individuel qui peut donc être stimulé par un apprentissage social. Donc le fait de voir la mère ou bien un individu du groupe consommer une plante inhabituelle qui va susciter la curiosité du chimpanzé qui est toujours très forte. Et ça, on l'a mis en évidence en faisant des travaux aussi en captivité, donc dans des parcs zoologiques et en donnant des plantes médicinales françaises à des chimpanzés, des orang-outans et des gorilles qui n'avaient jamais vu ces plantes-là, donc qui ne connaissaient pas ces plantes-là.
Donc il y a vraiment une transmission.
Il y a une transmission, il y a même parfois donc des jeunes individus qui vont aller prendre dans la bouche de la mère ou de l'adulte une partie de la plante qui mastique et qui est nouvelle, par exemple d'une écorce, pour s'imprégner du goût, le tester à son tour et ensuite le reproduire. Et on a vraiment montré qu'un individu consommateur de plantes inhabituelles et donc potentiellement médicinales attirait beaucoup plus l'attention, était observé par beaucoup plus de congénères et plus souvent que quand il mange un aliment habituel.
Merci beaucoup Sabrina Krieff. Ça s'appelle donc Chimpanzé et mes frères de la forêt. Ça paraît chez Actes Sud dans la collection Monde Sauvage. Et puis il y a une exposition et un rendez-vous aussi autour de la photo.
Exactement, à Montier-en-Der, donc du 14
au 17 novembre.
C'est exactement.
En Haute-Marne, le Festival international de la photo animalière et de nature.
Et donc il y a une expo sur les chimpanzés également parallèlement?
Une expo sur les chimpanzés et trois conférences, dont une avec Mathieu Ricard, une autour du livre et une avec Jean-Michel, donc mon mari, autour
de ses photos
et du rapport photographe-chercheur avec les chimpanzés.
Merci beaucoup Sabrina Krieff d'être venue aujourd'hui dans la Terre au Carré. Juste après les infos, la chronique Détox de Caroline Tourbe qui s'intéresse aujourd'hui au tremblement de terre. Attention, d'origine humaine.
France Inter. La Terre.
Allez, au menu de cette deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète qui va nous emmener en Guyane. On va retrouver Pierre-Olivier, un auditeur qui a créé un conservatoire pour les palmiers. Et puis enfin, notre invité découverte est la volcanologue Anne Le Friand, qui va nous parler d'un volcan sous-marin qui est apparu très récemment et qui secoue l'archipel de Mayotte. Et justement, avec vous aujourd'hui, Caroline Tourbe. Et comme tous les vendredis, c'est votre chronique détox qui va trembler aussi un peu. Hein.
Oui. Petite devinette, Mathieu. Quel est le lien entre le gaz de schiste, un barrage, une mine et une centrale géothermique pour bah, je vous donne la réponse.
Je l'ai un peu donné d'ailleurs aussi.
Tout à fait. Toutes ces installations sont potentiellement capables de déclencher des tremblements de terre. L'année dernière, une publication d'une équipe britannique en a recensé plus de 700, tous induits par l'homme et toutes causes confondues depuis 1868, parce que ça fait un bon moment que l'homme fait trembler la terre. Sauf qu'il y a encore quelques années, on pensait que tout cela était assez anecdotique.
Ouais, mais c'est la ruée vers le gaz de schiste qui a mis en lumière ces phénomènes dans les médias comme jamais auparavant.
Ouais, dernier écho en date, le 2 novembre, le gouvernement britannique annonce la suspension de l'extraction du gaz de schiste sur son territoire. Depuis de longs mois, des riverains inquiets à cause des séismes manifestés autour du site.
33 mini-tremblements de terre en 15 jours à peine. Le tout provoqué par ce chantier, pas plus grand qu'un champ, et qui pourtant met en alerte quasi quotidiennement le service britannique de surveillance sismique.
On nous dit que les secousses sismiques sont très faibles, sans danger. Mais moi, ça ne me rassure pas. Et la seule chose qui me rassurera, c'est quand ça s'arrêtera.
Bon, alors voilà, c'est fait. Hein. Donc pour les opposants, le moratoire décidé le week-end dernier est une victoire. En revanche, c'est un sacré échec pour le gouvernement conservateur. Lui, il escomptait ouvrir 20 puits en 2020 et alléger sa dépendance énergétique au gaz importé. Bon, c'est raté.
Hein. Ouais, dans cette histoire, Caroline, c'est le procédé de fracturation qui est en cause.
Oui, la fracturation, c'est ce procédé qui consiste à injecter des liquides sous pression pour fissurer la roche en profondeur et en faire sortir le gaz de schiste emprisonné. Ces injections viennent réveiller des petites failles, parfois des grandes failles, qui vont provoquer des séismes et parfois des gros séismes, contrairement à ce que l'on pensait. Par exemple, en Chine ou aux États-Unis, des séismes destructeurs d'une magnitude de plus de 5,5 ont déjà eu lieu. En Angleterre, c'était autour de 3, donc a priori sans dégâts sur les constructions.
Alors, mais puisque l'homme provoque ces séismes, il devrait au moins pouvoir les prédire quand même,
oui,
non ?
Oui, c'est vrai. On pourrait espérer que ces expériences grandeur nature améliorent l'art de la prédiction des séismes. Or, ce n'est pas si simple. En réalité, la Terre s'en fiche que la perturbation qui s'exerce sur elle soit en lien avec la tectonique des plaques ou avec une activité humaine. Elle réagit, c'est tout. Et les chercheurs s'arrachent même les cheveux pour répondre à cette simple question. Un tremblement de terre aurait-il eu lieu de toute façon, même sans notre intervention. Comme l'explique Jean-Robert Grasso du laboratoire Ister à l'université Grenoble-Alpes, pour répondre à cela avec certitude, il faudrait avoir sous la main deux terres. Sur une première, vous faites vos forages et compagnie, et sur l'autre, vous ne touchez à rien. Donc évidemment, c'est impossible.
Alors, qu'est-ce qu'on a appris de ces séismes quand même ?
Alors, on a appris quelque chose sur la notion de choc lent. Les chercheurs progressent en ce moment. Alors, pour comprendre, il faut savoir que les séismes naturels se déroulent avec une secousse principale qui sera suivie par des chocs secondaires. Or, après observation, les spécialistes estiment que pour connaître la puissance des plus gros séismes secondaires, il suffit de retirer 1,2 à la magnitude du premier choc. Par exemple, si le choc principal est de 7, les gros séismes suivants seront en moyenne d'une magnitude de 5,8. Dans leur nouveau modèle sur les séismes induits, les chercheurs comparent l'intervention humaine à une sorte de secousse principale, un choc lent, qui progresse tellement lentement même qu'on ne le ressentirait pas.
Mais comment on évalue la magnitude de ce choc lent ?
Pour évaluer cette première secousse, ce choc lent, Jean-Robert Grasso et son équipe vient tout juste de proposer un modèle appliqué au barrage, mais qui peut aussi s'extrapoler au gisement de gaz de schiste. Dans son modèle, le chercheur estime que la longueur du lac, créée par le barrage, correspond à peu près à la magnitude de la secousse principale. Donc, un lac par exemple de 8 km de long aura l'effet d'un choc d'une magnitude de 8. Et selon les observations des chercheurs, la magnitude des plus gros séismes qui seront provoqués par ce barrage, comparé ici donc à des chocs secondaires, ce seront des chocs d'une magnitude de 2 points inférieure. Donc si on reprend l'exemple, la magnitude des plus gros séismes engendrés par le barrage sera en moyenne de 6. Sachant qu'il peut évidemment y en avoir des plus forts et des moins forts, puisque l'on parle d'une moyenne.
Et dans le cas de l'extraction du gaz de schiste, Caroline ?
Alors Jean-Robert Grallo estime que c'est alors le volume de liquide injecté qui fait référence pour le choc primaire. Et ce sont des données précieuses, surtout là où les sites d'extraction se multiplient comme des petits pains, on pense aux États-Unis. Et bien là, c'est un peu comme si l'homme multipliait les chocs primaires. Résultat, il augmente statistiquement le risque de sortir de la moyenne et de déclencher un choc plus important.
Encore. Voilà la chronique détox Caroline Tourbe qui, elle aussi, provoque des petits séismes, d'ailleurs sur le site de France Inter, puisque d'ailleurs je dois vous féliciter. Votre chronique détox de la semaine dernière, merci. Caroline, consacrée aux gigantesques incendies sur la planète, a réalisé un record en tant que diffusion la plus écoutée sur le site de France Inter de toute son histoire, quand même, avec 348 000 visites. C'est du jamais vu, donc bravo
incroyable,
à vous.
Incroyable, bravo.
Et on peut réentendre, évidemment, cette chronique sur la page
de
la
Terre.
Ou du danse.
C'était les méga-feux.
C'est sur franceinter.fr, là, ou pas une, quand même. À la semaine prochaine, merci
à
Caroline.
La prochaine.
France Inter. La Terre au carré. vos solutions pour la planète.
Et direction Cayenne, Camille en Guyane, où nous attend Pierre-Olivier, bonjour.
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 Pierre-Olivier, vous êtes en ligne avec nous, vous êtes président de l'association Fou de Palmier et vous avez créé un palmétum à Macouria, c'est près de Cayenne. Vous avez été lauréat également d'un appel à projet qui s'appelle Initiative pour la reconquête de la biodiversité dans les Outre-mer, qui était soutenu par l'Agence française pour la biodiversité. Être fou de palmier comme vous, Pierre-Olivier, ça se traduit comment et ça commence jeune ou pas?
Ah oui, alors dans mon cas, ça commence très jeune puisque j'avais 17 ans quand j'ai commencé à être vraiment passionné par les palmiers. Et puis vous voyez, maintenant j'en ai 47, donc ça fait 30 ans de passion dévorante pour ce végétal.
Ce sont des arbres d'ailleurs les palmiers ou pas?
Oh ben ça fait débat, mais vous savez, les palmiers c'est une vaste famille, presque 3000 espèces à travers le monde, donc il y a effectivement des arbres, hein, on peut considérer qu'il y a des palmiers arborescents, qui sont donc des arbres, comme le cocotier par exemple, ou le palmier à huile, ou le palmier dattier, et il y a aussi des tout petits palmiers qui sont des buissons, et puis vous avez aussi des palmiers lianes, des palmiers aquatiques, enfin il y a tout un tas de variétés différentes.
Pourquoi les palmiers, ça vous évade un palmier, ou il y a des raisons un petit peu plus terre à terre?
Bah écoutez, c'est difficile à expliquer, hein, de savoir pourquoi ou comment est-ce qu'on passe d'un simple intérêt pour quelque chose à une passion dévorante. Alors ça, ce passage-là, j'ai du mal à l'expliquer. Je pense que c'est comparable à l'amour. Quand vous tombez amoureux de quelqu'un, vous pouvez pas dire pourquoi exactement. Eh bien, la passion, pour moi, c'est la même chose. J'ai commencé à m'intéresser aux palmiers, et puis à force de fouiller, à force de rentrer dans le sujet, je me suis vraiment, ça m'a passionné. Mais à quel moment la flamme de la passion s'allume et pourquoi, ça je peux pas vous expliquer.
Sauf que quand même, Pierre-Olivier, c'est de nous aider à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a de fascinant dans un palmier, s'il vous plaît?
Ah oui, bon, bah écoutez, moi je pourrais en parler des heures, là on n'a que 5 minutes, mais en résumé, bon, moi d'abord je trouve que ce sont des plantes qui sont magnifiques, hein, donc il y a un aspect esthétique absolument indéniable. Pour la plupart, ce sont de très très beaux végétaux. D'autre part, ils sortent un petit peu de l'ordinaire de la végétation classique à feuilles. Ce sont des plantes avec des grandes feuilles en général. Il y a des noix, il y a des feuilles, il y a des troncs, tout est surdimensionné chez les palmiers. Donc c'est un peu la famille des records aussi dans le monde végétal.
Il y a beaucoup d'espèces.
Mais l'aspect esthétique. Oui, il y a presque 3000 espèces, 2800, 3000 espèces recensées actuellement.
Ouais, et en Guyane, beaucoup?
Alors en Guyane, on en a 65 à peu près. Elles sont pas toutes encore décrites précisément. Il y a un petit peu de travail à faire, mais on en a dénombré au moins 65. Oui. Ouais. Là, je vous parle d'espèces qui poussent à l'état naturel en Guyane, hein, ouais. Pas d'espèces exotiques.
Ce palmétum, alors justement, Pierre-Olivier, il sert à quoi? Parce qu'il sert à protéger, à faire de la conservation. Est-ce que les palmiers sont en voie de disparition aujourd'hui? Il y a un danger ou pas qui passe sur ces végétaux?
Alors oui, alors le conservatoire, effectivement, il a un double objectif. D'abord, c'est de conserver des espèces rares et de réunir à un endroit donné un maximum d'espèces de palmiers différentes de façon à les montrer au public et à faire de l'éducation. Les palmiers, c'est une famille fascinante, c'est une des familles végétales les plus utiles au monde. Et je pense qu'il est très important que les gens puissent voir les palmiers et qu'on leur explique à quoi ça sert.
Utile,
en Guyane, il y a énormément d'espèces. Oui, alors en Guyane, je disais, il y a beaucoup d'espèces utiles, mais dans le monde aussi, à travers le monde, il y a énormément de palmiers utiles et c'est important, je pense, de les préserver et de les montrer.
Mais utile comment, pardon, ça sert à quoi un palmier?
Alors il y a énormément de choses, de produits qui sont dérivés des palmiers. On connaît tous le palmier à huile, bon ça c'est l'exemple un petit peu polémiste en ce moment, mais il y a aussi les dattes, il y a les noix de coco, les rotins qui sont des palmiers, vous avez le raffia qui est un palmier aussi. Et tout un tas d'autres fruits qu'on ignore, parce que ce sont des consommations traditionnelles dans les forêts à travers les tropiques. Mais en construction aussi, les palmiers sont très utiles. Les feuilles de palmiers, les troncs de palmiers, il y a énormément de choses. Le sucre de palmier, enfin, on pourrait en énumérer des centaines, des milliers d'exemples, je pense.
Donc, il faut protéger ces végétaux. C'est aussi le sens de votre travail, vous, autour du palmétum?
Oui, absolument. Alors, il faut les protéger parce que, d'abord, ce sont des plantes rares et utiles. Mais parce que, comme vous l'avez dit, certaines espèces sont déjà en train de disparaître et malheureusement, avec la pression anthropique qui s'exerce de plus en plus sous les tropiques et dans le monde entier, il est indéniable que de plus en plus de palmiers, comme d'autres végétaux ou d'autres êtres vivants, vont disparaître dans les années qui viennent. Donc il faut les protéger en urgence. Ouais.
La terre de Guyane, d'ailleurs, Pierre-Olivier, elle est tout à fait propice à la croissance des palmiers?
Alors c'est plutôt le climat de la Guyane qui est particulièrement propice parce qu'on est vraiment dans une zone qui est équatoriale humide Et c'est dans ces zones équatoriales humides que l'on va trouver le maximum de biodiversité pour les paniers. Il s'agit quand même d'une espèce tropicale, d'une famille, pardon, essentiellement tropicale. Donc, pour ça, la Guyane, c'est parfait. Par contre, au niveau du sol, ça, c'est un petit peu moins bien parce qu'on est sur un sol qui est généralement très pauvre en Guyane, donc avec beaucoup de latérite, beaucoup de sol très épuisé. Donc ça c'est un peu plus compliqué, mais on y arrive, on trouve quand même des terrains qui sont adaptés, et puis les palmiers sont pas des végétaux extrêmement difficiles, donc on arrive à d'excellents résultats quand même.
Alors pour les habitants de Cayenne et de la Guyane, on peut donc visiter votre Palmetum Conservatoire, avec donc beaucoup d'espèces évidemment. Quel est peut-être le point d'orgue de cette visite? Est-ce qu'il y a quelque chose à voir en particulier qui vous tient à cœur, vous?
Ah, écoutez, il y a beaucoup de choses à voir. Alors, il y a les espèces de Guyane, déjà, qui pour certaines ne sont pas forcément visibles par tout le monde parce qu'elles sont très localisées dans des régions inaccessibles. Donc là, on les a en culture au palmétum. D'ailleurs, certaines sont protégées par la loi. On a un programme de sauvegarde avec la DEAL. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, il y a des espèces emblématiques. Par exemple, le fameux Taïna spectabilis de Madagascar, qui est un des plus gros palmiers de Madagascar et qui a été découvert il y a 10 ans seulement, dans une zone extrêmement reculée. Et donc, on a la chance d'avoir deux spécimens en culture au palmétum. Et donc, ça permet de voir ce palmier très rare. Mais il y a aussi des raffias dont on parlait, il y a des palmiers à sucre, et il y a tout un tas d'autres espèces.
Voilà, pour tous ceux qui sont pas très loin de Cayenne, à Macouria, donc ce palmétum à visiter, et puis l'occasion d'évoquer donc la conservation et la protection de ces végétaux grâce à vous, Pierre-Olivier. Merci beaucoup d'être passé par chez nous aujourd'hui.
Merci.
Et puis Camille, on peut inviter nos auditeurs à nous rejoindre.
Oui, et à nous envoyer du coup un message si vous avez, comme Pierre-Olivier, des projets, des idées, des passions. Vous nous écrivez sur la page de La Terre au Carré sur franceinter.fr.
Et ce sont vos solutions pour la planète. Dans un instant, notre invité découverte va nous parler d'un volcan sous-marin qui fait trembler Mayotte en ce moment. Ce sera juste après Vagalam et Vanessa Paradis.
Je le savais, le cœur a ses failles. Pourtant c'est vrai, la surprise est de taille. Quel est le fin mot de cette histoire de fou allié? Y avait-il un défaut, un vice caché?
Vague à l'âme sœur, c'était Vanessa Paradis sur France Inter.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Ah mon Dieu !
C'était il y a presque un an. La terre de Mayotte tremble, encore une fois. Depuis le 10 mai dernier, l'île a connu près de 2000 secousses, jusqu'à 5 par jour. Des séismes dits en essaim, dont l'origine vient d'être enfin découverte. La naissance d'un volcan sous-marin, dans les profondeurs de l'océan Indien, à 50 km des côtes de Mayotte.
La maison, la cuisine, tout bouge. Hier, j'étais là et c'était comme ça. J'ai peur, mais je m'en remets à Dieu.
Voilà un sujet extrait de TV5 Monde. Bonjour Anne Le Friant.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes volcanologue et directrice adjointe des observatoires à l'Institut de physique du globe de Paris. Et vous êtes avec nous justement aujourd'hui pour nous parler de la découverte de ce volcan sous-marin, découvert récemment dans l'archipel de Mayotte et qui a fait l'objet d'une campagne d'observation. Depuis mai 2018, de très nombreuses secousses sismiques frappent l'archipel de Mayotte. Et on le voit dans ce sujet, les habitants le ressentent directement. Hein.
En effet, oui. Ouais. Il y a eu, alors je crois qu'on en est maintenant à 32 séismes de magnitude supérieure à 5 qui se sont produits depuis cette période. Donc supérieure à 5, ça veut dire que là, les habitants le ressentent. Mmh. Et dans la période, je pense, entre mai 2018 et février 2019, on a commencé à mettre des capteurs en mer. C'est 1600 séismes de magnitude supérieure à 3,5 qui avaient été aussi qui s'étaient produits sur Mayotte. Mmh. Donc avec, du coup, aussi des magnitudes supérieures à 5, des dégâts sur le bâti, fragilisation du bâti.
Alors, sauf que la découverte de ce volcan sous-marin, on le rappelle, est vraiment récente. Hein.
Alors, elle est récente parce que la crise sismique a commencé en mai, donc mai 2018. Beaucoup de séismes. Il y avait aussi des GPS qui étaient sur l'île de Mayotte, qui enregistraient un déplacement de l'île, qui se déplaçait vers l'est. Donc tout ça, les scientifiques ont commencé à en parler à partir de l'été 2018. Mmh. Et puis le gouvernement donc a débloqué des fonds. C'était le ministère de la Transition écologique et solidaire et le MESRI. Et un appel d'offres a été lancé par CNRS pour justement aller explorer, aller essayer de comprendre ce qui se passe. Donc il y a des sismomètres qui ont été installés à terre et des sismomètres qui ont été installés en mer à partir de 2019. Mais alors quand on met des sismomètres de fond de mer, le problème c'est qu'ils ne peuvent pas nous transmettre les données directement. Donc on les a déployés en février et puis on est retourné les chercher au mois de mai. Donc ça c'est une campagne en mer qui a eu lieu sur le Marion Dufresne. Donc on a eu beaucoup de chance puisque le Marion Dufresne est un navire océanographique. Mmh. Il était là-bas et donc il a aussi d'autres capteurs à bord. Donc il y a une équipe qui a embarqué, qui était menée par Nathalie Feuillet, donc qui est chercheuse à l'Institut de physique du globe de Paris, et puis Stéphane Jury de l'IFREMER, et en grande collaboration aussi avec le BRGM. Et donc ils ont travaillé sur la zone, ils ont récupéré les sismomètres, ils ont du coup dépouillé toute la sismicité qui s'était produite depuis février, ce qui leur a permis bien de localiser en fait où étaient les seins de sismicité. Et ils avaient aussi un sondeur multifaisceau, bien sûr, un sondeur de coque, qui leur permet en fait d'avoir une idée de la morphologie des fonds marins. Donc ils ont travaillé sur toute la zone, et je crois que c'était un soir, une équipe qui travaillait le soir, qui a découvert à un moment un panache, ce qu'on appelle un panache volcanique, donc un panache de fluide dans la colonne d'eau. Donc très vite, ils ont regardé les données bathymétriques du fond qu'on avait, qui étaient antérieures, qui dataient de 2014. Ils ont comparé ça avec les données bathymétriques, avec la morphologie du fond donc de 2019. Et là, ils se sont aperçus qu'il y avait un relief de 5 km de diamètre, 820 mètres de haut,
ah oui,
qui n'était pas là en 2014.
Ah oui, c'est une belle bête quand même.
Donc qui était apparu.
Et est-ce que c'est fréquent de nos jours qu'un volcan apparaisse comme ça?
Alors, il y a de l'activité volcanique sous-marine, elle n'est pas forcément près des côtes, elle n'est pas forcément observée. Là, il n'y avait aucune manifestation, j'ai envie de dire, à la surface. Il y avait des séismes, bien sûr, ressentis par les habitants très fortement parce qu'il y a une île à côté. Mais quand on a un volcan qui est perdu au milieu de l'océan Atlantique ou au milieu du Pacifique, on ne va pas forcément ressentir en fait les séismes. Donc il peut y en avoir, mais on ne les ressent pas. Là, ce qui est particulier, c'est que c'est près d'une île et donc on a pu ressentir en fait les séismes.
Mais ce volcan, il est vieux ou il s'est formé récemment, justement?
Donc, il se serait formé depuis le début de la crise sismique. Donc, ça veut dire qu'en une année, à peu près, il y a 5 km cubes de magma qui ont été émis. Donc, ce qui est considérable puisque ça le place, en fait, au niveau des émissions de lave les plus importantes. La dernière émission de lave la plus importante qu'on avait, c'était l'éruption du Laki. Donc, en Islande, en 1783. Alors, on était à 694 mètres cubes par seconde, je crois. Mmh. Mais là, on est quand même pas très loin derrière. On est entre 150 à 200 mètres cubes par seconde pour cette éruption. Donc, c'est la deuxième émission de lave la plus importante, là, après le Laki.
Et très simplement, qu'est-ce qui explique qu'un volcan se forme pour les gens qui ont oublié leur cours de quand ils étaient petits?
En fait, alors, ça va être... Ce que ça remet un petit peu en question, la découverte de ce volcan, c'est qu'on pensait que tout l'archipel là, des Comores était situé, c'était en fait une zone de points chauds, avec donc des remontées, un peu comme à Hawaï, avec des chapelets d'îles volcaniques qui se formaient, avec des anomalies au niveau de la lithosphère. Mais en fait, là, on considérait que du coup, l'extrémité de Mayotte était finalement la partie un peu plus inactive maintenant de ce point chaud, et qu'au niveau du Gartala, on avait l'activité récente donc du point chaud. Là, cette activité qui renaît maintenant à Mayotte, on se demande si on serait peut-être pas plutôt à une frontière de plaques, plutôt que dans une zone, plutôt au niveau d'un volcanisme intraplaque.
Donc plaques africaines.
Alors au niveau des plaques, voilà, qui sont au large de l'Afrique.
Ouais. Quand vous dites que l'île s'était déplacée ou se déplace encore, mais c'est dans quelle proportion qu'on imagine un petit peu?
Alors, c'est quand même assez important. On est à 15 cm de déplacement en vertical. Enfin, entre 8 et 15 cm de déplacement en vertical et entre 18 et 20 cm en horizontal. Ouais. Ça, c'est lié vraiment à la vidange. Faut imaginer un réservoir magmatique qui va se vidanger. On a eu donc 5 km cubes de magma de lave qui sont sortis. Donc, c'est beaucoup. Des débits qui sont, donc, je l'ai dit, de 150 à 200 mètres cubes par seconde. Donc, c'est aussi important. Et quand ça se vidange, ça va provoquer, en fait, un affaissement autour de la chambre magmatique. Et c'est pour ça que l'île s'est déplacée. Mais c'est quelque chose qui est assez courant. Aux alentours d'un édifice volcanique, on peut avoir de la déformation. Hein. Python de la Fournaise, en 2007, quand il y a eu l'effondrement, on a eu aussi un affaissement comme ça d'un mètre, quand le volcan, ça gonfle et ça dégonfle.
Et cette lave, elle est donc très en profondeur. Vous avez dit, c'est quoi la profondeur?
Alors le volcan, il est basé à 3500 mètres et il fait 3500 mètres
donc, sur le fond, océanique.
Voilà, il y a 3500 mètres d'eau au-dessus. Et lui, il fait 820 mètres de haut.
Et la lave, elle peut remonter à la surface ou pas?
Alors, si on prend les débits, mais tout ça, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, parce qu'on travaille encore actuellement sur les données. Là, les débits qu'on a, c'est 150, 200, on va dire, mètres cubes par seconde. Mais si on prend ces débits-là, il faudrait quand même encore près d'un demi-siècle pour que le volcan arrive à la surface. Maintenant, ça, c'est des estimations. Il y a encore beaucoup de données à acquérir pour être sûr vraiment précisément du début de l'éruption, des débits qui sont en jeu, et puis est-ce que ça va continuer comme ça? Ça peut aussi l'éruption, elle peut très bien s'arrêter. On a vu des éruptions sous-marines qui duraient moins d'un an. Celle-ci semble durer assez longtemps. Ou ça peut s'arrêter à cet endroit-là et puis sortir à un autre endroit. Ça, c'est quelque chose qui est aussi possible. Donc, c'est compliqué de répondre.
Ouais, donc, nous, on est en train d'en parler assez calmement autour de ce micro, mais j'imagine que pour les habitants de Mayotte, hein, qui ont quand même ce volcan sous leurs pieds et dans leurs eaux, c'est extrêmement inquiétant quand même, non?
Oui, c'est inquiétant, mais donc il y a un réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte qui a été mis en place. Donc il y a des fonds qui ont été débloqués par le gouvernement pour suivre justement l'activité de ce volcan. Il y a un comité scientifique donc qui réunit, je ne vais pas tous les citer, mais
non, s'il vous plaît,
beaucoup d'instances. Alors, dans les fondateurs, il y a l'IPGB, RGM, CNRS et IFREMER qui suivent cette activité, mais il y a beaucoup d'autres partenaires.
Mais qu'est-ce qui pourrait se passer dans le pire des cas finalement?
Alors, ce qui pourrait se passer, bon, soit l'éruption continue où elle est, où elle s'arrête, ou alors elle s'arrête à l'endroit où elle est, mais l'éruption, le magma sort à un autre endroit. Notamment, une des choses qui pourrait être inquiétante, c'est si elle sortait plus près de l'île de Petite Terre. Voilà, ça, c'est quelque chose. Dans ce qui pourrait se passer aussi, bon, on a vu qu'il y avait un affaissement, en fait, de l'île. Il y a des inondations qui se sont déjà produites. Si l'île continue à s'affaisser, il pourrait aussi y avoir des inquiétudes, des infiltrations d'eau ou des choses comme ça.
Il y a des risques de tsunami ou pas?
Alors, les risques de tsunami, ils pourraient être liés à des instabilités, puisque quand on met un édifice comme ça, volcanique à un endroit, il peut y avoir des instabilités des pentes autour. Et aussi parce qu'on a une sismicité importante avec des pentes assez fortes. On voit sur la bathymétrie, c'est des choses qu'on est en train d'analyser, c'est vraiment en cours, hein, des encoches. Donc, ça veut dire qu'il y a des pentes qui sont susceptibles de s'être déstabilisées avant et qui pourraient peut-être, secouées par la sismicité, se déstabiliser à nouveau. Donc on fait des scénarios, on voit tout ça, mais ce qu'il faudra faire après, c'est mettre des probabilités sur l'occurrence de ces scénarios.
Donc c'est à surveiller comme le lait sur le feu, hein, véritablement.
C'est à surveiller, hein, ce qu'il faudrait surtout, c'est qu'on arrive à avoir en effet des réseaux et des transmissions de données en mer en temps réel, ce qu'on n'a pas pour l'instant. Ça existe sur d'autres analogues, mais pas ici.
Merci en tout cas Anne Le Friand d'être venue nous en parler. Vous êtes donc volcanologue et directrice adjointe des observatoires à l'Institut de physique du Globe de Paris. Merci beaucoup d'être passée dans la Terre au carré. Vous allez pouvoir reposer, Camille Cronier. C'est le week-end, ça y est.
C'est le week-end, mais on sera là le 11 novembre.
Merci à toute l'équipe, évidemment, pour la préparation de l'émission. Lucie Sarfati, Ren Menahem, Chantal Le Montagnier, Anna Massardier pour les réseaux sociaux et Thierry Dupin pour la programmation musicale.